C'est pas du vent.
Lite kraftdom får samma mat som kossorna.
Le magazine de l'environnement.
Men då behöver de få lite extra. Så då ger jag dem lite.
Sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, avez-vous remarqué que les grandes puissances politiques de notre planète sont aussi des puissances agricoles? La Chine, l'Union européenne et les États-Unis produisent à eux trois près de la moitié de la production agricole mondiale en valeur. L'Union européenne a fait ce pari dès les années 60 en créant la PAC, la politique agricole commune, pour moderniser et développer ce secteur sans se préoccuper un instant de la préservation de l'environnement. Cap sur les grandes exploitations, la mécanisation et les intrants chimiques. Résultat, les sols sont ravagés, la biodiversité maltraitée et les agriculteurs découragés. Pourtant, et vous allez l'entendre dans cette émission, les mentalités changent. Au Portugal, en pleine crise économique, les jeunes reviennent vers la terre pour la cultiver autrement. Et au Royaume-Uni, le spectre du Brexit inquiète sur le contenu de l'assiette.
C'est pas du vent sur RFI.
Au Royaume-Uni, 41% de la nourriture consommée vient directement ou indirectement de l'Union européenne. Quelque 78 000 travailleurs saisonniers européens sont employés dans le secteur horticole. Autant dire que la sortie de l'Union européenne du marché commun et de la politique agricole commune s'annonce comme un casse-tête pour le secteur agroalimentaire britannique. Alors comment y faire face? L'Amérique de Donald Trump y voit l'opportunité de passer des accords de libre-échange avec le gouvernement conservateur, mais des municipalités aux entrepreneurs, des fermes urbaines aux chefs de restaurants, beaucoup se refusent à voir les standards alimentaires du Royaume-Uni s'aligner sur ceux des États-Unis, dont le poulet au chlore, bon appétit, est devenu le symbole. Alors que le pays est déjà champion d'Europe de l'obésité, ils se battent pour que les citoyens britanniques puissent accéder à des produits de qualité, fruits et légumes en tête. Reportage dans un pays qui craint pour son avenir alimentaire, signé Combastin.
Long time ago, you know, the writer George Orwell.
Vous connaissez l'écrivain George Orwell. En 1936, il a écrit un livre qui s'appelle Le Quai de Wigan. Il y décrit comment les ouvriers pauvres de l'époque se nourrissent de plats bas de gamme et bon marché, comme les fish and chips. C'est normal, lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent, parfois même pas de cuisinière, pas de frigo, vous nourrissez votre famille comme vous le pouvez.
Bonjour Kerry, donc là nous sommes à Dagenham, c'est très à l'est de Londres. C'est quel genre de quartier? Est-ce qu'on trouve facilement des fruits et légumes ici?
If you walk from the local
Si vous marchez depuis la station de métro la plus proche jusqu'à notre ferme, sur 2,5 km, vous ne trouverez pas un seul aliment frais. Pas de citron, pas de tomates, pas de laitue. Par contre, vous verrez 6 ou 7 boutiques de fast-food qui vendent de la nourriture bon marché. Vous savez, les gens à Dagenham, ils comprennent qu'ils devraient manger des fruits et des légumes. Mais leur vie est trop stressante. La plupart sont au chômage, beaucoup ont des enfants et ils n'ont pas tellement d'argent. Ils vivent dans des logements précaires qu'ils louent très cher.
Pourquoi est-ce que vous nous avez donné rendez-vous ici?
Nous sommes à la ferme de Dagenham, gérée par l'association Growing Communities, pas loin de la Tamise, le fleuve de Londres. Nous avons ouvert en 2012. Je suis la coordinatrice de ce projet, je gère aussi le marché fermier de Growing Communities. En fait, cela fait un moment que je m'investis dans des projets alimentaires et environnementaux dans le coin.
Est-ce qu'on peut faire un tour de la ferme?
Let's go. Let me show you around.
Allons-y, laissez-moi vous montrer. Nous cultivons principalement des salades, des tas de pousses et de laitues différentes. Au total, nous produisons 5 tonnes par an. Sachant que c'est principalement des salades, ça en fait un paquet. Regardez par là, ce sont des fraisiers remontants qui produisent plusieurs fois dans l'année. Ce ne sont pas des fermes énormes comme on en trouve sur les marchés en France et en Espagne, mais ce sont des fraises très parfumées. Parce qu'en fait, le climat anglais, s'il y a une chose pour laquelle il est bon, c'est faire pousser des fruits.
Elle fait quelle superficie cette ferme au total?
La surface totale est de 1,7 hectare. C'est petit, nous essayons donc d'être le plus productif possible, tout en respectant les sols, parce que nous n'avons aucune subvention pour la ferme.
Où est-ce qu'elle est écoulée, toute cette production ?
Notre principale source de revenus, c'est les paniers de légumes de Growing Communities, le marché que nous gérons à un stand avec les produits de la ferme. Et puis, nous essayons aussi de vendre nos produits localement, à la sortie du métro. Nous travaillons dans une toute petite niche, celle de la culture périurbaine, à la lisière de la ville. En plus, notre agriculture est biologique. La majorité des fermes au Royaume-Uni deviennent de plus en plus grandes chaque année, alors que les petites exploitations font faillite. Plus une ferme est grande, plus elle reçoit des subventions de la politique agricole commune. La plupart des producteurs bio ne touchent jamais rien, alors que leur contribution est énorme. Non seulement ils produisent beaucoup de nourriture de qualité, mais ils participent à l'économie rurale, parce que ces petites fermes emploient plus de travailleurs.
C'est pour y remédier que Growing Communities a été lancé.
Growing Communities a été créé avec une mission très ambitieuse, révolutionner le système alimentaire. C'est drôle parce que nous ne sommes qu'une petite association basée à Hackney et maintenant à Dagenham. Mais le cœur de notre travail, c'est de montrer que les circuits de distribution alternatifs sont la clé. Nous avons lancé nos paniers bio en 1997. À l'époque, il n'y avait vraiment pas de panier bio à
Londres.
Plus tard, en 2003, nous avons ouvert notre marché fermier. Il est au cœur de l'arrondissement de Hackney. Nos clients sont très variés et viennent de toutes les couches sociales. Dans les supermarchés, on pense parfois que les saisons n'existent pas. Dans un marché fermier, c'est ce qu'on apprend directement aux gens. Nous sommes en mars, et en mars, il n'y a pas de fraises du tout.
Est-ce qu'on peut faire un tour au marché demain ?
Le samedi, oui, c'est un endroit très agréable. Et c'est rare, car c'est le seul marché hebdomadaire 100% bio de Londres, peut-être même du Royaume-Uni. Vous y trouverez des tas de stands sympas et une nourriture délicieuse. L'argent des clients du coin va directement dans les poches des petits producteurs. Cela les aide à survivre et à se développer. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and there's nothing to get hung about. Strawberry Field forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you. Hard to be someone, but it all works out. That doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and there's nothing to get hung about.
Le Conseil alimentaire de Londres s'est lancé en 2004-2005. Ensuite, Sadiq Khan est devenu maire et il a été décidé de repenser la stratégie alimentaire de Londres.
Bonjour Claire Pritchard. Avant de parler plus de cette stratégie, la précarité alimentaire, c'est une réalité à Londres ?
À Londres, comme partout au Royaume-Uni, les salaires sont bas. Les gens travaillent à plein temps, mais leurs salaires ne sont pas élevés. Ajoutez à cela le fait qu'à Londres, les loyers sont très élevés, donc oui, la pauvreté y augmente, la précarité et l'insécurité alimentaire aussi. Et puis, ce qu'on trouve autour de nous, ce qu'il y a dans les magasins, ce qui est ouvert, n'est pas tout le temps bon pour la santé.
Alors, le Royaume-Uni importe, on sait, 30% de sa nourriture de l'Union européenne. Est-ce que vous préparez Londres au Brexit sur le plan alimentaire ?
Oui, nous nous préparons à cette situation et modélisons l'impact de la hausse des prix alimentaires. À Greenwich, nous avons fait beaucoup d'études sur la précarité alimentaire qui ont conclu qu'une augmentation de 8% des prix de la nourriture jetterait 1000 familles dans la précarité alimentaire, juste dans cet arrondissement. Et il y a 33 arrondissements à Londres. La plus lourde conséquence du Brexit concerne le monde du travail, le manque de compétences et le caractère cosmopolite, divers et international de Londres. Nous avons des restaurants et des commerçants fantastiques qui proposent des produits incroyables d'Espagne, d'Italie et de France et qui nous disent qu'ils vont perdre leurs employés.
Est-ce que vous craignez aussi que plus de junk food puisse inonder les rues de votre ville après le Brexit ?
Faire partie du marché commun européen nous a doté des standards alimentaires parmi les plus élevés du monde. Si de nouveaux accords commerciaux nous demandent de les abaisser pour laisser entrer de la nourriture, ma grande crainte, c'est que les gens qui vont pâtir de cette nourriture sont ceux qui sont déjà en précarité alimentaire, qui n'ont pas les moyens de faire les choix que je pourrais toujours faire en matière de nutrition.
Et quelle stratégie vous avez choisi d'adopter avec Sadiq Khan ?
La nouvelle stratégie que nous avons lancée en février s'attaque à l'alimentation et la précarité dans les foyers. Nous essayons d'augmenter les revenus, de voir où les gens peuvent faire leurs courses. Nous avons aussi un chapitre sur l'économie. Vous savez, la scène culinaire à Londres est incroyable, particulièrement nos marchés, notre nourriture de rue, mais aussi nos restaurants. Nous voulons soutenir cette innovation. Nous nous intéressons aussi à l'approvisionnement du secteur public. Par exemple, les arrondissements se réunissent pour acheter ensemble directement aux producteurs. Lorsque le secteur public passe ainsi commande, cela peut vraiment soutenir un système agricole durable avec des produits de qualité cultivés localement. En ce moment, nous sommes assis à Greenwich. Il y a un marché pas loin avec pas moins de 200 commerçants. Mais il suffit de se rendre dans d'autres parties de l'arrondissement pour ne plus trouver aucun marché. Il nous faut plus de marchés de rue. Il nous faut soutenir les commerces indépendants qui sont si importants. Nous devons les aider à se fournir en fruits et légumes à un prix abordable. Cela demande une planification stratégique.
Nous sommes à Hackney, un quartier cosmopolite du nord de Londres. C'est là que se tient tous les samedis le Farmers Market, chapeauté par l'association Growing Communities. Il y a de petits producteurs de la région de Londres, du Sussex et du Kent. Mon odorat est attiré par un stand d'organic blue cheese.
My name is Nu. Je m'appelle Nu et je vends mes fromages tout le week-end. Ils viennent de la ferme familiale et sont faits à partir de lait 100% bio. Nous proposons plusieurs sortes de fromages sur ce marché. Il y a du bleu, du fromage de Bath, qui ressemble beaucoup au brie. Tout cela grâce à des vaches heureuses. C'est pour ça que notre fromage est tellement meilleur.
Donc vous faites partie de l'association Growing Communities ?
Oui, nous soutenons Growing Communities. Comme vous pouvez le voir, nous ne vendons que dans les marchés fermiers, mais pas dans les supermarchés, ni les restaurants, ni les chaînes d'hôtels.
Ce genre de marché où vous pouvez vendre votre production bio directement comme ça, c'est quelque chose de rare au Royaume-Uni ?
Oui, nous ne vendons que le week-end, le samedi et le dimanche, dans le marché fermier. Pendant la semaine, il y a un marché d'arrondissement près du pont Tower Bridge, où nous tenons un stand. Comme vous le savez, récemment, avec le Brexit, il y a un manque de main-d'œuvre. C'est pour cela qu'il est plus dur de produire aujourd'hui qu'avant.
Single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. The world feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet.
Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate.
I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over.
Bonjour Tim Lang, vous êtes professeur en politique alimentaire au Centre de recherche en alimentation de la City University de Londres. Vous êtes aussi l'auteur du rapport « Nourrir l'Angleterre, la sécurité alimentaire après le Brexit ». Comment est-ce que vous présenteriez l'état du système agroalimentaire britannique aux auditeurs ?
To the French, British food and agriculture have been a joke.
Aux yeux des Français, l'agriculture et la gastronomie anglaise ont toujours été un sujet de moquerie. Et à juste titre. Mais c'est du passé. Ces 40 dernières années, principalement grâce à l'adhésion à l'Union européenne, le système agroalimentaire anglais a connu une révolution. On trouve maintenant parmi les meilleurs chefs du monde dans les villes comme Bristol ou Londres. La culture alimentaire des Anglais a complètement changé. En ce sens, le Brexit menace de détruire tous ses acquis. C'est déjà le cas. Le Royaume-Uni importe 41% de la nourriture qu'il consomme via l'Union européenne. Tout cela n'avait absolument pas été pris en compte par les politiques. Nous, le monde académique, la société civile, travaillons d'arrache-pied pour qu'un débat national ait lieu. Notre rapport, intitulé « Nourrir l'Angleterre », a provoqué un véritable séisme. Soudain, les gens ont commencé à comprendre.
Par quelles importations le Royaume-Uni pourrait compenser la sortie de l'Union ?
Le gouvernement mené par les conservateurs veut passer des accords de libre-échange avec les États-Unis. Or, nous avons publié un rapport qui démontre que les normes alimentaires européennes sont meilleures sur le bien-être animal et meilleures sur la sécurité alimentaire que celles des États-Unis. Le symbole de tout ça a été le poulet au chlore. Le fait de laver au chlore des aliments pour les désinfecter est devenu un symbole. Que l'Angleterre soit dépendante des importations européennes, cela ne fait pas de doute. Lorsque nous avons publié le rapport, il a fait la une dans tout le pays. Et rapidement, il a été admis que si nous interrompions la libre circulation de nourriture en provenance de l'Europe, eh bien l'Angleterre ne pourrait plus se nourrir. Et le secrétaire d'État d'un département important a reconnu publiquement, quel idiot, qu'il n'avait pas réalisé qu'autant d'aliments venaient par le port de Douvres. Voilà le niveau d'incompétence politique où nous en sommes rendus.
Vous nous avez donné rendez-vous à Bristol. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ?
Je suis à Bristol parce que j'ai été invité par Tom Hunt, un jeune chef écolo et talentueux qui organise un banquet du futur. Il utilise des restes alimentaires, il réduit l'impact carbone de ses plats. Je suis psychologue de formation. La nourriture, ça doit être un plaisir. C'est une chose que nous avons appris des Français.
Est-ce qu'on pourrait vous accompagner dans ce banquet du futur durable ?
Bien sûr, comme Tom Hunt et les participants, je suis quelqu'un qui ne croit pas que les frontières doivent séparer les gens.
À table alors.
Je m'appelle Ben Proud et je suis un des organisateurs de cet événement. C'est une collaboration entre nous, le Manifeste des Chefs et certains des meilleurs chefs de Bristol. Le Manifeste des Chefs est un collectif international de cuisiniers qui se sont rassemblés pour reconnaître qu'en tant que chef, à l'avant-garde de l'alimentation, nous avons une position d'influence et un pouvoir sur la façon dont les gens voient la nourriture et les tendances alimentaires. En ces temps de crise environnementale, il nous faut donc plaider en faveur des mouvements alimentaires et des ingrédients qui sont bons, et d'enjeux majeurs comme l'effondrement de la biodiversité dans notre agriculture. Il nous faut soutenir des exploitations plus petites et biologiques qui permettent aux insectes de survivre.
En tant que chef anglais, quels sont les principaux défis auxquels fait face l'Angleterre en termes de nutrition, en termes d'alimentation ?
Il y a eu beaucoup de critiques sur l'impact de la politique agricole commune sur les petites exploitations. Notre ministre de l'Environnement en a beaucoup parlé et promis de préserver l'environnement dans notre future politique agricole. Je ne le crois pas. Mon expérience en termes de politique dans notre pays, c'est que ceux qui ont de l'argent et de l'influence, les grands lobbies agricoles, sont ceux qui ont le pouvoir. Après le Brexit, nous allons nous retrouver en situation de faiblesse et serons très vulnérables aux pressions et aux manipulations des grandes puissances économiques mondiales, comme l'Amérique, qui a l'intention très claire de nous imposer son système alimentaire. Je n'ai vraiment pas envie de voir l'agroalimentaire anglais ressembler à celui des Américains. Bien sûr, la politique agricole commune européenne pose des problèmes, mais cela pourrait être bien pire sans. Je pense que nous devrions rester en Europe et nous battre pour une meilleure agriculture de l'intérieur, car ensemble, nous sommes plus forts.
I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
Tout d'abord, moi j'aime manger. Et lorsqu'on voyage à l'étranger, la nourriture qu'on peut manger dans des pays comme la France est bien plus représentative de la région dans laquelle on se trouve. Alors qu'au Royaume-Uni, la plupart du temps, la nourriture est très homogène.
Rich Osborne, un entrepreneur de Bristol, à la tête de la plateforme Fresh Range.
Fresh Range is a technology company.
Fresh Range est une entreprise technologique.
Building shorter, faster, lighter.
Nous mettons en place des circuits alimentaires plus courts et plus rapides pour améliorer la sécurité alimentaire au Royaume-Uni et livrer des produits de saison vraiment exceptionnels aux foyers et au secteur public, les hôpitaux, les universités, les écoles. Nous avons mis en place des circuits courts sur tous les types d'aliments. Des fruits et légumes qui poussent à quelques kilomètres, de la viande, des poissons pêchés sur la côte sud, mais aussi des boissons, de la bière, du cidre, du vin. Notre objectif, c'est d'être une vraie alternative au supermarché.
Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, finalement, la livraison, c'est la clé ?
Même si nous sommes loin d'être un pays autosuffisant, nous avons sans aucun doute le potentiel de faire mieux. Alors qu'il y a des milliers de fabuleux producteurs au Royaume-Uni, seulement 1% de la nourriture qui est consommée dans les villes est en moyenne issue de sources locales. Avant même le Brexit, il y a 4 ou 5 ans, lorsque nous avons lancé l'entreprise, il était évident que nous faisions face à un futur alimentaire incertain. Aujourd'hui, ce risque est plus élevé que jamais. Si nous sortons de l'Union européenne sans avoir trouvé d'accord, notre chaîne d'approvisionnement en nourriture va être incapable de suffire. En matière de nourriture, nous sommes dans une économie en flux tendu, de dernière minute. Il va donc y avoir des pénuries alimentaires. C'est ça l'objectif de Fresh Range, fournir au gouvernement la technologie dont il a besoin pour commencer à reprendre le contrôle des chaînes d'approvisionnement alimentaire, afin de pouvoir continuer à alimenter les populations les plus vulnérables en cas de pénurie.
Tim Lang, comment compenser par exemple la sortie des subventions de la PAC ou des quotas de pêche européens ?
La politique agricole commune a été une des politiques les plus diabolisées du monde, et pour de très bonnes raisons. Mais ce que les Anglais et beaucoup de gens de l'Union européenne n'ont pas réalisé, c'est que la PAC a changé. Elle change depuis longtemps. Les Anglais pensent qu'en quittant la PAC, ils vont soudain se retrouver au Nirvana. Mais la feuille de route du ministre de l'Environnement, Michael Gove, ne dit pas un mot sur la nourriture. Les Anglais ont été excédés par les quotas de pêche, et cela se comprend. Mais ces dernières années, les campagnes qu'ils ont menées ont porté leurs fruits pour les faire évoluer. par exemple sur la question du rejet des poissons pêchés et sur les quotas imposés. Nous avons commencé à mettre en place un système de gestion des stocks de poissons dans la politique de pêche commune. C'est très loin d'être parfait, mais je le répète, l'Angleterre va quitter ses politiques exactement au moment où c'est dangereux pour elle de le faire.
Comment est-ce qu'on va compenser cette perte de main-d'œuvre en cas de sortie de l'Union ?
L'industrie alimentaire emploie de 20 à 30% de travailleurs migrants européens. Mais dans le secteur de l'horticulture, cette perte de main-d'œuvre va être encore plus désastreuse. Le gouvernement britannique n'a pas vraiment répondu à cette menace. Il a autorisé 2500 travailleurs saisonniers à rester. C'est ridicule. L'horticulture, à elle seule, en emploie 78 000 par an. En 2018, certaines récoltes de fruits n'ont pu être ramassées. C'est un aperçu de ce qui nous attend.
Mais au fond, la nécessité de repenser l'agriculture et l'alimentation, elle préexistait au référendum sur le Brexit.
Bien sûr, l'Angleterre, comme tout le monde en Europe, devrait réorganiser son agriculture. Nous nous basons sur ce que j'appelle, en tant que chercheur, une approche productiviste de la nourriture. La nourriture, ça marche tant qu'on en produit un maximum. Si on en produit plus, cela devient moins cher. Si cela devient moins cher, nous pouvons manger plus. Et ainsi, nous sommes en bonne santé. C'est une doctrine des années 30, pas de 2010.
Hein.
L'Union européenne a été lente à changer et influencée par les lobbies des fermiers et d'un certain modèle agricole. Aujourd'hui, nous savons qu'en 2030, 2040, il nous faudra un système alimentaire différent. La vraie question sur l'alimentation, c'est est-ce que le Brexit va améliorer notre situation ou l'empirer ? Va-t-il frapper les plus pauvres ? Eh bien, la réponse est oui, parce que la livre s'effondre, les importations coûtent plus cher, les taxes augmentent. Le Royaume-Uni possède des chercheurs talentueux, une société civile dynamique dans les domaines de la santé, de l'environnement, du bien-être animal. Une de nos contributions principales en tant que membre de l'Union européenne a été de faire évoluer Bruxelles sur ces questions. Est-ce que c'est allé assez loin ? Non. Est-ce que le Royaume-Uni pourra le faire tout seul ? Non également. Cela demande une collaboration internationale. Et le Brexit l'ignore complètement. La nourriture, les oiseaux, l'air, les nutriments traversent les frontières. Tout est interdépendant. Les frontières sont faites par les hommes, pas par les écosystèmes.
C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. L'industrialisation et la mécanisation ont eu raison de la main-d'œuvre agricole en Europe. Les paysans ont disparu puisqu'ils ne représentent désormais qu'à peine 4% de la population active de l'Union européenne. Mais avec la crise économique, le retour à la terre séduit et avec une approche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Exemple au Portugal. Dans ce pays du sud de l'Europe, les agriculteurs sont avec une moyenne de 65 ans les plus âgés de l'Union européenne. Mais depuis la crise économique et financière de 2010 et le plan d'austérité qui a suivi, les jeunes délaissent leur diplôme d'infirmier, d'avocat ou d'architecte pour se lancer dans l'agriculture. Ce secteur, encore soutenu par des subventions publiques, notamment européennes, est une voie de reconversion prometteuse, surtout dans la culture de nouveaux produits de niche à forte valeur ajoutée et exportables, comme les fruits rouges, le miel, le vin, les champignons ou les plantes aromatiques. Ces néo-paysans se sont retrouvés au Salon de l'agriculture du Portugal 2019 à Santarém. C'est là que Cerise Maréchaux les a rencontrés.
Bonjour, Alors, je suis au Salon de l'agriculture, la Feira Nacional de Agricultura, à Santarém, à 80 km au nord de Lisbonne, dans le hall B, qui est le temple de plein de petits producteurs indépendants.
Boa tarde.
Tudo bem?
Ça sent bon. Vous êtes en train de cuisiner?
Estes são shiitakes.
Ce sont des shiitakes. Je les fais sauter, puis j'ajoute de l'œuf, du chorizo, du sel et du poivre.
Avec son tablier noir enfilé sur un élégant costume, Rui Marques, 39 ans, ressemble à un jeune cadre dynamique, candidat dans un concours de cuisine à la télé.
Et là, ce sont des pleurotes que j'ai d'abord fait revenir dans du vinaigre de pomme rainette.
Mais il est là en tant que jeune agriculteur, pour représenter son exploitation de champignons, Agrocachola, fondée en 2013. Au Portugal, il fait partie d'une infime minorité d'agriculteurs ayant moins de 40 ans.
Oui, c'est notre premier salon de l'agriculture. Jusqu'à présent, nous n'avions pas atteint la taille suffisante. Mais maintenant, on estime qu'on peut se mettre en avant et essayer de capter des nouveaux marchés. Nous produisons des champignons shiitake, des pleurotes, sur une exploitation dans le Montiro, qui fait 2 hectares. Là, on a installé une aire couverte de 5000 mètres carrés, chauffée par des radiateurs. Le terrain, on le loue à son propriétaire. On a un bail de 10 ans. On travaille avec des supermarchés, notamment la chaîne Aldi, notre plus gros client.
Est-ce que vous visez aussi l'export ou c'est vraiment un choix de rester?
On vise l'export, oui. On a des contacts avec la France, mais ce n'est pas encore concrétisé. Moi, avant, j'étais dans un autre secteur d'activité qui n'avait rien à voir avec l'agriculture. J'étais dans la construction, en tant que chef de chantier.
Dès 2009, la crise économique et financière qui frappe le Portugal conduit le pays à une cure d'austérité très sévère. Coupes dans les dépenses publiques, gel des salaires et diminution des retraites, hausse des impôts, baisse des investissements. En 2012, le chômage atteint 15%. Rui a alors 32 ans.
Et donc l'entreprise où je travaillais a licencié tous ses employés, tous sans exception. Je me suis retrouvé obligé de trouver une solution. Et la solution, ce fut le projet Agrocachola. J'avais senti que le secteur du bâtiment n'allait pas bien. Donc j'ai commencé à développer ce projet avant même d'être licencié. Et une fois au chômage, j'ai entrepris de le consolider et aller de l'avant.
Concrètement, vous estimez que vous avez été au chômage combien de temps ?
6 mois.
Pendant 6 mois.
Est-ce que, en tant que personne sans emploi, vous avez reçu un encadrement ou des aides ou des formations, ou en tout cas quelque chose en tant que chômeur qui a pu appuyer le lancement de ce projet ?
Quand on est sans emploi au Portugal, on reçoit des indemnités. Mais cela n'avait rien à voir avec mon salaire précédent. Pour ce projet, j'ai reçu des aides européennes. Nous avons candidaté en tant que jeunes agriculteurs. Il fallait remplir les critères suivants. Avoir un projet innovant et une exploitation certifiée en bio. Les aides dépendent aussi de la taille de l'exploitation.
Je peux vous demander combien vous avez reçu ?
50 000 euros.
On a reçu 50 000 euros.
Alors, pourquoi le champignon ? De quelle réflexion c'est né ? Est-ce que c'est une intuition d'aventure ou il y a une étude de marché ? Parce que ça fait partie des produits mis en avant comme ces produits à forte valeur ajoutée, assez innovants, qui s'exportent bien et qui sont intéressants pour se lancer dans l'agriculture aujourd'hui.
Parce que le shiitake était à l'époque un produit nouveau au Portugal. On trouvait essentiellement des champignons de Paris. Le shiitake et d'autres sortes de champignons promettaient une bonne marge de croissance.
Quand vous dites vous, c'est vous et vos associés ?
Si.
Et donc, l'idée du champignon, elle est partie d'une sorte de conversation informelle où vous avez senti le champignon dans l'air.
Si, exactement.
Vous sentez que l'agriculture aujourd'hui au Portugal fait partie des secteurs porteurs ?
Pour dire c'est mais
ça pourrait l'être encore plus. Mais oui, c'est porteur.
En 2017, l'agriculture du Portugal croît plus fortement que les autres secteurs économiques, même si elle reste moins productive par rapport à la moyenne européenne et que le nombre d'exploitants diminue. Les produits les plus porteurs sont l'huile d'olive, les fruits et les fruits secs, le vin, qui est d'ailleurs la star de ce salon de l'agriculture 2019. Myrtilles, framboises, fraises, mûres, la production de fruits rouges a augmenté en flèche ces 10 dernières années. En 2014, le programme de développement rural portugais, avec 270 millions d'euros, a appuyé financièrement 3500 jeunes agriculteurs dans le nord du Portugal, région de petits producteurs plutôt déshérités par rapport au sud et ses grandes exploitations. La technologie et le marketing s'améliorent, les exportations augmentent, note le Journal Economico en avril 2018. Cette croissance est largement soutenue par les aides européennes de la politique agricole commune. L'an dernier, 154 000 agriculteurs en bénéficient, environ 40% des paysans.
Est-ce que vous avez pensé aux fruits rouges à un moment ? J'entends beaucoup parler des fruits rouges.
Oui,
à l'époque, on parlait beaucoup de fruits rouges. Mais c'est un exemple d'une filière qui n'a pas rencontré que des succès. Heureusement, il y a eu quelques réussites, mais en fait, pas tant que ça. Nous, entre associés, on a vite décidé de ne pas investir dans les fruits rouges, car en fait, il faut une grande exploitation, et nous n'avions pas cette superficie. Ça nous a donc poussé à éliminer d'autres types de cultures.
Rui Marques avertit. Les aides européennes à l'agriculture constituent un marché juteux. Certaines boîtes de conseil veulent en profiter et offrent à des candidats potentiels des projets en apparence clés en main, en promettant monts et merveilles en termes de rentabilité. Mais la réalité est plus compliquée et Rui Marques insiste sur la nécessité de prendre son temps et surtout de rester indépendant et maître de son projet.
Era uma vez barquinho pequenino que navegava sem parar.
La force de ces Portugais, bien plus jeunes et mieux formés que les agriculteurs traditionnels, c'est de pouvoir appliquer leurs connaissances et leur expérience au service de leurs nouveaux projets.
Nós voltaremos a começar.
C'est le cas de Filipa Almeida, 39 ans. Son stand affiche en grand les photos de collines verdoyantes et de ruches au milieu des fleurs sauvages, à Castelo Branco, dans l'est du Portugal. Filipa, devenue apicultrice il y a 6 ans, a lancé son entreprise Api Jardin.
Je suis venue recevoir un prix pour ma production de miel et montrer ce qui se fait de mieux en apiculture dans le pays.
Avant, elle était architecte paysagiste. Elle a travaillé sur la réhabilitation de carrières de pierre et des projets urbains et touristiques.
Comme il y avait peu de travail en Portugal dans l'arrière du paysagisme pour cause de crise économique.
À cause de la crise, il y avait très peu de travail dans le paysagisme, domaine dans lequel je travaillais à l'époque. Et l'entreprise où je travaillais a décidé de délocaliser toute l'équipe au Mozambique et en Angola. Je devais donc soit quitter l'entreprise ou m'installer dans un autre pays. Alors j'ai décidé de rester.
Quelle formation avez-vous suivi pendant votre période de chômage ?
Várias formações.
Plusieurs formations, l'une en pharmacie, je me suis intéressée de près aux plantes pollinisatrices, et une autre formation en apiculture. En parallèle, un voisin qui avait des ruches m'en a offert quelques-unes, et j'ai commencé à apprendre. Et aujourd'hui, je combine apiculture et architecture paysagère.
Votre projet apicole, alors vous produisez du miel, mais vous agissez aussi sur l'environnement autour de vous.
Les terrains où j'ai installé mon activité sont à ma famille. Ces terrains ont été brûlés par 2 incendies consécutifs. Il a fallu que j'utilise mes connaissances en apiculture, mais également en architecture paysagère, en partant des caractéristiques du sol, du climat et des espèces naturelles d'abeilles de la région, pour restaurer la biodiversité, la biodynamique. Ce que j'ai fait, c'est rendre le sol à même d'attirer les abeilles de la région, à grande échelle, car il existe une symbiose naturelle entre les abeilles et la végétation locale. Donc on a rendu la base de leur alimentation aux abeilles autochtones, car il n'existe pas une, mais 20 000 espèces d'abeilles.
Filipa autofinance ses formations. En 2013, elle reçoit 58 000 euros de la politique agricole commune en tant que jeune agricultrice. Cela représente 60% de son investissement total.
Quand j'ai reçu le financement, j'avais déjà des ruches et un début d'expérience pour m'en occuper. Et je dois avouer que l'expérience que j'avais en planification de chantier m'a permis d'établir trois phases dans le développement de mon projet, afin de réinvestir ce que je gagnais et de grandir plus rapidement. Toute l'expérience de ma précédente activité a été très utile. Dans la vie, tout est un chemin. Toute expérience va nous servir un jour ou l'autre.
Aujourd'hui, Philippa vit exclusivement de ce métier, comme seuls 6% des agriculteurs portugais, qui s'en sortent en diversifiant leur activité grâce à du tourisme rural, la transformation de leurs produits, de la production forestière, des énergies renouvelables ou des prestations de services. Ainsi, Philippa forme les nombreux candidats à l'apiculture, au profil très varié. Elle rappelle que c'est un métier délicat et que peu de monde va au bout de sa démarche.
L'apiculture rassemble des personnes très diverses, des médecins, des économistes, des ingénieurs. Il n'y a pas de profil, ni d'âge. Mais ceux qui aboutissent à un projet viable ont en général des connaissances scientifiques, en biologie. Pas forcément à un niveau universitaire, mais il faut des notions de biologie, de chimie, pour comprendre le super-organisme qu'est l'abeille. Et il faut aussi savoir vendre, gérer. Et enfin, surtout, pour y arriver, il faut vraiment aimer les abeilles, car ce métier demande beaucoup de sacrifices. Il arrive de se lever à 5 heures et travailler jusqu'à minuit pour préparer les ruches. Il ne faut surtout pas faire ce métier pour l'argent, mais par amour.
Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, agricultor, obrigado por lançar na terra a semente. Obrigado, agricultor, obrigado por alimentar nossa gente.
Les nouveaux jeunes agriculteurs portugais n'ont pas tous la trentaine et plus de 40% d'entre eux n'ont pas reçu d'aide financière. Au Portugal, la débrouille reste le maître mot pour la majorité des agriculteurs. Dans un pays où il est très fréquent, très ancré, d'avoir plusieurs activités pour joindre les deux bouts. Patricia et Mario Fonseca ont d'abord lancé leur projet Cheiro Sabor, des produits à base de panais, comme activité complémentaire. Mario, 50 ans, travaillait au service commercial d'une entreprise, puis s'est retrouvé au chômage. Patricia, 47 ans, est toujours infirmière. Mais comme tout le personnel de santé, elle subit le gel des salaires depuis les mesures d'austérité. C'est devenu difficile de s'en sortir. Amoureux de cuisine, ils ont décidé de valoriser le panais, ce vieux légume méconnu sur le retour. Ils ne le cultivent pas et sont livrés par des voisins paysans. Mais ils le déclinent avec créativité et savoir-faire en pâté, confiture, flan, bientôt une crème glacée. Des produits qu'ils vendent sur les marchés et en ligne, avec un succès modeste mais assez solide. Au Portugal, il existe la possibilité, quand on est sans emploi, plutôt que de recevoir des indemnités mensuellement, de les recevoir en fait tout d'un coup pour que ça puisse constituer un capital à investir dans un projet économique. Est-ce que ça a été votre cas ?
Non, foi o nosso caso, porque o que nos era proposto era se avançassem com esse valor.
Non, nous n'en avons pas bénéficié, parce que cette mesure implique qu'au bout de un ou deux ans, nous ayons atteint la marge de bénéfice précisée par l'organisme gouvernemental qui nous avance cet argent. Si on n'atteint pas cette marge, il faut rendre l'argent. Et on a décidé que c'était un trop grand risque à courir. Et on a préféré développer la marque Cheiro Sabor, progressivement, avancer à petits pas, avec nos ressources financières de l'époque. Donc on réinvestit au fur et à mesure l'argent que l'on gagne pour créer de nouveaux produits. Donc vous faites du bénéfice puisque vous le réinvestissez. Est-ce que vous pouvez tirer un revenu pour vous deux ?
Oui,
mais c'est tout récent. Quand on a lancé le projet il y a 5 ans, cela générait un revenu complémentaire, c'est tout.
Puisqu'ils ne cultivent pas eux-mêmes, Patricia et Mario ne connaissent pas les mêmes défis du métier de paysan que rencontre un de leurs voisins, Francisco Delgado, fondateur de Quinta da Sanguinheira de la Beira Beixa, en plein cœur du Portugal. Francisco a misé sur le maraîchage et l'horticulture pour transformer lui-même ses produits en condiments et aromates.
Aqui temos as ervas aromáticas.
Là, nous avons des plantes aromatiques. Et là, sur cette parcelle non cultivée, se trouvent des blocs de béton sur lesquels nous faisons la déshydratation des légumes.
Là-bas, ce sont des petits piments. Malaguetas, vous dites ?
C'est le principal produit que nous transformons, le piment rouge malagueta. Nous en faisons de la sauce piquante, de la gelée, du chutney. Nous faisons aussi de la tapenade, des compotes, notamment pour les marchés de Noël.
Il travaillait dans la formation professionnelle, mais l'activité a chuté pendant la crise. Il a monté son exploitation avec des indemnités chômage et un prêt bancaire. La forêt sur le terrain de ses beaux-parents devait financer le développement de son entreprise agricole. Mais l'année 2017 en a voulu autrement.
En 2017,
toute cette région du pays a été affectée par des incendies. Il faisait très chaud, avec beaucoup de vent. Ici, au total, nous avons 35 hectares, dont 26 sont occupés par de la forêt. Toute cette forêt a été brûlée, perdue. Or, nous comptions sur cette forêt pour la coupe du bois et ainsi nous autofinancer. Donc, ça a compliqué l'évolution du projet.
Après cet incendie en 2017, vous n'avez pas reçu d'aide ?
J'ai reçu une petite aide afin d'acheter du matériel d'irrigation et de clôturage. Avant l'incendie, on avait pour projet d'animer des ateliers de distillation, par exemple d'eucalyptus, pour faire des huiles essentielles dans la réserve là-haut. Mais du coup, nous repoussons le projet à plus tard.
Alors néanmoins, Francisco, est-ce que l'agriculture aujourd'hui au Portugal vous paraît un secteur quand même plus porteur que dans le passé ?
Passou um pouco em Portugal.
Je pense qu'il y a eu un effet de mode avec l'agriculture, notamment lié à l'engouement pour l'agriculture bio et le tourisme rural. Beaucoup de gens se sont engagés dans des projets agricoles. Mais une fois passé le temps du financement, beaucoup n'ont pas résisté à la rudesse du travail agricole. Je le constate à partir de projets que je connais et qui se sont arrêtés. Même certains projets médiatisés, présentés comme innovants, que j'ai voulu aller voir pour apprendre et partager des connaissances, eh bien, j'ai constaté que ces projets n'existaient plus. Les financements se sont asséchés, les marchés espérés ne se sont pas ouverts et les gens sont retournés dans les grandes villes.
Aujourd'hui, Francesco, vous êtes agriculteur à plein temps depuis 5 ans. Est-ce que vous avez un revenu décent ? Ou meilleur que ce que vous gagniez avant dans votre métier précédent ?
Non, je gagne beaucoup moins que dans mon ancien métier. J'espère que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, les entrées d'argent sont moins importantes que les dépenses. Mais bon, je commence à trouver des clients, à avoir une certaine reconnaissance, et j'ai espoir. Le plus dur est derrière moi.
Au Portugal, 9% des agriculteurs disent que ce n'est pas le rendement économique qui les fait s'accrocher à leur parcelle, mais quelque chose de plus fort, l'amour de la terre et du territoire.
Portugal, le retour à la terre, c'était un reportage de Cerise Maréchaux réalisé par François Porcheron avec le soutien de l'Union européenne. Merci à David Faneca pour la traduction. Vous pouvez retrouver ces reportages en photo sur la page internet de l'émission, tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Nous pouvons aussi continuer à échanger après l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.